Secret d'info sur France Inter.
Bonjour Marc Lomazzi.
Bonjour.
Comment la mafia du tabac nous manipule, c'est le titre du livre que vous publiez chez Flammarion, un travail d'investigation basé sur les confessions de quatre repentis du lobby du tabac. Alors déjà, comment vous avez pu rencontrer ces personnes? Qui sont-elles et quel était leur rôle?
Alors, ces personnes, je les ai rencontrées dans mon travail de journaliste, hein, de tous les jours. J'ai été, comme beaucoup de journalistes, ciblé par l'industrie du tabac. Donc, je les connaissais, pour certains d'entre eux. Et donc, qui sont-ils? Ben, le premier, c'est un pur lobby, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans les relations publiques, entre guillemets, comme on dit, qui fait du trafic d'influence auprès des élus, des hauts fonctionnaires.
Qui a un profil intéressant, HEC, ENA, il est passé par les cabinets ministériels, même était directeur de cabinet, je crois.
Hein. C'est le profil type du lobbyiste d'aujourd'hui, c'est-à-dire... On aime bien recruter des anciens des cabinets ministériels qui ont eu un rôle au plus haut sommet de l'État parce que d'abord ils connaissent tout le monde, ils connaissent parfaitement les rouages de la fabrication de la loi, de la réglementation et ils peuvent approcher très facilement l'ensemble des cercles du pouvoir. Donc ça c'est un profil qui les intéresse et on leur fait souvent des ponts d'or pour qu'ils passent de la fonction publique, le service de l'État, au service des entreprises privées. Et le tabac évidemment est très très friand de ce genre de profil.
Alors ils se présentent avec des titres plus ou moins ronflants, directeur des relations institutionnelles, et puis ils vont voir les politiques, ils vont dans les milieux économiques. Et qu'est-ce qu'ils font précisément?
Alors, la mission est très simple. Je raconte dans le livre que Pierre, quand il est arrivé, évidemment, lui, c'était un haut fonctionnaire, il connaissait pas très bien l'entreprise privée. On lui a mis les points sur les i immédiatement. Première mission, empêcher toute nouvelle loi ou réglementation anti-tabac. Ou, si jamais on n'arrive pas à l'empêcher, au moins en annuler ou en minimiser les effets. Première mission.
Vous nous dites, Pierre a pour mission d'empêcher telle ou telle loi, mais comment il peut empêcher une loi? Ils invitent les gens au restaurant, mais enfin, ça se limite peut-être pas à ça.
Alors, si on prend un exemple, on va parler du paquet neutre avec le projet de loi santé présenté par Marisol Touraine. Avant Marisol Touraine, il y avait un autre projet qui était les photoshocks. Quand Pierre, donc, lobbyiste en chef d'un des grands cigarettiers installés en France, avant ce projet de photoshock, c'est-à-dire on voit des gorges rongées par le tabac, des enfants avec des masques à gaz, etc., il se dit « c'est pas possible ». On peut pas faire ça. Donc, il alerte des députés qu'il a pris soin auparavant d'inviter à de nombreuses reprises, il les connaît bien, et il décide d'une chose toute simple. Il va demander à des députés amis de l'industrie du tabac de faire un rapport dans lequel il propose que les photoshocks soient non pas sur la face la plus visible du paquet, mais au dos. Et non pas en haut, mais en bas. À l'époque, la ministre en charge de la Santé, c'est Roselyne Bachelot. Son cabinet propose ces fameuses photoshocks sur la face la plus visible. L'industrie du tabac intervient et elle va réussir à avoir l'arbitrage de Matignon pour que les photoshocks soient au dos. Roselyne Bachelot va être furieuse. Elle va demander à Matignon de quoi il s'agit, etc. Et je l'ai rencontrée et elle me dit « malheureusement, j'ai eu un arbitrage négatif de Matignon ». Donc l'industrie du tabac a gagné alors que c'était un projet de gouvernement. Donc voilà un exemple de la manière dont intervient l'industrie du tabac. Ils interviennent auprès des députés, ils interviennent auprès de Matignon et ils ont même accès à l'Élysée.
Alors, il y a toutes ces actions de lobbying que vous rapportez, mais il y a aussi des données importantes. Vous nous expliquez combien rapporte un paquet de tabac. Donc, on va prendre l'exemple là, ensemble, si vous voulez bien. On va prendre un paquet à 7 euros. Donc, combien sur ces 7 euros revient aux fabricants de tabac et combien revient à l'État français qui, on le sait, a de nombreuses taxes?
Alors, le tabac est le produit de consommation courante le plus taxé en France. Donc, c'est 80% de taxes. Donc, sur un paquet à 7 euros, on va avoir 5,70 euros, 5,80 euros qui tombent dans les poches de l'État. On va avoir 60 centimes qui vont aller aux fabricants et le reste qui va aller aux buralistes et à la société qui distribue le tabac chez les buralistes.
Ce qui fait que les 5 euros et quelques qui vont dans la poche de l'État, multipliés par le nombre de paquets vendus, ça fait 14 milliards par an, 20% de l'impôt sur le revenu.
Voilà.
C'est un chiffre absolument colossal. Et ça explique aussi pourquoi, finalement, il faut s'entendre avec ces fabricants du tabac. Et on est dans une forme de schizophrénie. D'un côté, on nous dit qu'il y a 78 000 morts à cause du tabac, donc on va avoir des politiques de santé publique. Et de l'autre côté, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses.
C'est le principal argument de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac dit « faites ce que vous voulez, Simplement, si vous nous matraquez de taxes et de réglementations anti-tabac, les ventes vont chuter et vous allez perdre des recettes fiscales. Donc Bercy, depuis 2004, alors pourquoi 2004? C'est qu'en 2003, Jacques Chirac, qui vient d'être réélu, lance un plan cancer et il décide de s'attaquer frontalement au tabac. Et il décide d'augmenter de 40% les prix du tabac d'un coup. Le marché s'effondre. Dès 2004, on s'aperçoit que c'est une perte en recettes fiscales colossale. Et surtout, le lobby du tabac monte au créneau. Et les buralistes montent au créneau et défilent dans les rues en disant « pas une voix pour l'UMP ». Et effectivement, la droite perd les élections régionales en 2004. Depuis ce temps-là, la droite est terrorisée par les buralistes et donc, dès 2004, décide de ne plus s'attaquer au lobby du tabac. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un cartel de fabricants, ils sont que quatre, qui se met en place, qui va voir Bercy et qui dit « voilà, on vous propose d'augmenter régulièrement, mais de manière faible, chaque année, les prix du tabac. Comme ça, les fumeurs qui sont de toute façon addicts, ça va passer. Vous, vous augmentez régulièrement vos taxes et nous, on augmente nos bénéfices. »
Donc, on se met d'accord sur un chiffre qui plaît à tout le monde. 6% à peu près de hausse annuelle pendant cette période-là.
Il dit là 6%. Parce que les anti-tabac disent, et ils ont raison, et Pierre, que j'ai interrogé, me dit « moi, j'ai toujours affirmé le contraire, mais en fait, je savais qu'ils avaient raison ». Pour qu'une hausse soit efficace et fasse reculer le tabagisme, il faut au moins 10%. Si vous faites moins de 5%, c'est pas intéressant au niveau des recettes. Donc le chiffre qui va bien, c'est 6. Et donc ils ont topé à 6. Et ce qui est extraordinaire, c'est vous regardez les discours des politiques. Par exemple, un de ses discours en province où il parle de la ruralité, Nicolas Sarkozy dit « j'ai décidé une augmentation des prix du tabac ». Alors certains me disaient, il faut aller jusqu'à 10, d'autres me disaient, mais non, c'est trop, etc. J'ai décidé, j'assume, ça sera 6. Exactement le chiffre qui a été topé en 2004. Et ce chiffre-là a perduré jusqu'en gros en 2012.
Mais alors, c'est quand même assez impressionnant ce que vous nous dites. Ça veut dire que ce cartel des fabricants de tabac et les autorités politiques et Bercy ont un deal secret pour s'être mis d'accord sur ce chiffre de 6%, donc quelque part toutes les politiques qu'on nous annonce, tout ce qui nous est dit sur la lutte contre les méfaits du tabac, tout ça, ce serait de l'affichage?
Alors, ce que me disent les repentis du tabac que j'ai rencontrés, c'est que eux, ce qui compte, c'est cette petite augmentation du prix qui fait que chaque année, leurs bénéfices augmentent. Ce sont des sociétés cotées en bourse, à New York, à Tokyo, etc. Eux, ce qui compte, c'est les bénéfices. Ce système d'entente fait que la France est le pays pour le tabac, le plus rentable du monde. Plus rentable du monde. Donc, avec Bercy, ils tiennent absolument à ce que cette entente fonctionne. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'empêcheurs de tourner en rond, et notamment pas le ministère de la Santé. Donc tous les ministres de la Santé successifs, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, aujourd'hui Marisol Touraine, se heurtent à un mur qui est le mur de Bercy, le ministère du Budget, qui refuse absolument d'augmenter massivement les prix du tabac, qui serait l'arme la plus efficace. Et donc ça, dans le livre, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une hausse, il débouche des bouteilles de champagne. Pour eux, c'est extraordinaire. Alors que le gouvernement nous dit officiellement, voyez, on lutte contre le tabagisme, la preuve, j'augmente les prix. En fait, c'est une entente qui bénéficie à la fois à l'État et aux cigarettiers.
Alors, ces cigarettiers, ils ont cependant bel et bien conscience qu'à terme, il y aura quand même moins de fumeurs en France, moins de fumeurs en Europe. Ils savent qu'on va vers une Europe, peut-être un jour, qui ne fumera plus du tout. Donc, le but pour eux, c'est de gagner du temps, le temps que, justement, ils puissent développer des marchés vers d'autres continents, en particulier la Chine et l'Inde. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. C'est que ils savent depuis assez longtemps maintenant, il y a une étude très sérieuse qui montre que dans les années 2040-2050, on va arriver dans tous les pays riches et dans tous les pays occidentaux à une proportion de fumeurs qui sera marginale. Donc, le nombre de fumeurs diminue. Donc, première réponse des cigarettiers, on augmente tout doucement les prix de manière à compenser en valeur ce qu'on perd en volume. Première chose. Deuxième chose, comme chaque paquet de cigarettes vendu est une cash machine pour eux, chaque année gagnée, chaque mois gagné, ce sont des centaines de millions d'euros qui tombent dans leur poche. Donc, ça vaut le coup de faire ce combat de retardement en attendant qu'on puisse aller conquérir de nouveaux marchés. Et pour les nouveaux marchés, Alors, il y a un deal qui vient d'être passé entre Philip Morris et la Chine, par exemple, qui autorise pour la première fois le fameux paquet rouge de Marlboro à être commercialisé en Chine. Alors, ils vont avoir un gros problème, c'est la contrefaçon en Chine qui est massive. Donc là, ils ont un gros combat à mener, mais c'est leur plus grand marché, c'est la Chine, l'Inde, évidemment, et l'Afrique. Et pour conquérir ces marchés-là, que font-ils? Ils font ce qu'ils ont fait en Europe et ce qu'ils ont fait au Canada et en Amérique latine. Ils vont inonder ces pays de cigarettes fabriquées par eux et vendues en contrebande, pas cher, de manière à ce que les gens, notamment en Afrique, prennent l'habitude de fumer du tabac au goût anglais. Ils ont fait ça en Europe, hein, parce que dans tous les pays européens comme la France, c'était le tabac brun qui dominait. Et ils ont inondé l'Europe de cigarettes blondes de contrebande américaines pour habituer les gens à ce goût anglais.
Eh bien, merci beaucoup, hein, Marc Lomazzi. On vous écouterait encore plus longtemps. C'est passionnant, hein, ce que vous nous racontez. En même temps, c'est assez effrayant. Vous êtes donc l'auteur de « Comment la mafia du tabac nous manipule ». C'est aux éditions Flammarion. Une véritable, une vraie enquête dans un milieu où pourtant le silence règne souvent.
Merci.